Bien, voilà. Bonsoir. Merci pour l'accueil. Alors, je vais passer peut-être un peu la derrière. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous, vous n'êtes pas très nombreux, mais simplement pour pouvoir avoir le retour de l'écran. Donc, je ne suis pas un spécialiste du gaz de schiste. Je ne suis pas du métier. Je n'ai jamais été ingénieur pétrolier ni quoi que ce soit. Je ne suis pas non plus décideur politique ou militant écologiste. Donc, j'essaie, bien qu'ayant mon opinion, d'être relativement neutre. Bon, je pense que mon opinion transparaîtra quand même, mais voilà. Je n'ai pas d'intérêt ou de parti pris a priori. Je vais donc vous faire un exposé de professeur de SVT qui, à la base, était destiné à des élèves de lycée, donc autant que possible compréhensible. Je commence par un récapitulatif rapide de ce que c'est que le pétrole, le charbon, les hydrocarbures qu'on exploite, pour ensuite expliquer en quoi il en existe d'autres qui sont non conventionnels et l'impact qu'ils peuvent avoir. Et est-ce qu'il faut ou non les exploiter en Europe, en France en particulier. Je ne suis pas non plus un spécialiste d'économie, donc vous me pardonnerez si quand on touche un peu à des domaines plus socio-économiques, je suis moins compétent. Voilà. Et certains en savent certainement plus que moi dans cette salle. Alors, commençons au-delà de la petite blague. Mes sources principales sont assez diverses, mais on peut citer le site de géologie de l'ENS de Lyon, notamment mon ancien professeur de géologie, Pierre Thomas, a présenté plusieurs fois des choses en rapport avec les hydrocarbures non conventionnels. Il a fait une conférence qui est consultable sur le site, dont je m'inspire assez largement pour beaucoup de choses, et je citerai mes sources à un certain nombre de reprises. Ce livre d'Olivier Blond, Le gaz de schiste, le vrai du faux, qui date de 5 ans, je crois, maintenant, mais qui faisait bien le point sur les problématiques lorsque le débat était encore assez chaud en France, il y a quelques années. L'émission du Dessous des cartes de 2014 sur cette thématique. Alors, il y en a plusieurs sur les hydrocarbures, et il y en a notamment une sur le gaz de schiste en particulier. Ça a changé un petit peu de présentation, mais ça reste une excellente émission. Et à l'époque, c'était peut-être encore au-dessus. Et puis donc, toutes mes images sont sous licence libre, a priori, tirées de Wikimedia Commons, sauf mention contraire, auquel cas il y aura la source. Alors, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire comment se forme un gisement de gaz de schiste, un gisement de gaz, de pétrole, de charbon, classique ou non conventionnel, le départ est le même. Donc au départ, il faut de la matière organique. Les combustibles fossiles, c'est de la matière organique, donc c'est basé sur la chimie du carbone, des grosses molécules carbonées, de carbone assez réduit, que donc on peut brûler, oxyder, pour dégager de l'énergie. Cette matière organique, il y a plusieurs manières d'en produire, mais sur Terre, la principale, c'est évidemment la vie. Les êtres vivants que nous sommes, que vous êtes, sont composés largement de matière organique. Si on enlève l'eau, il reste une grosse proportion de matière organique. Et on peut envisager d'autres manières de produire de la matière organique, des manières abiotiques, purement chimiques si vous voulez, mais même si elles existent sur Terre, elles sont vraiment complètement noyées dans l'énorme production de matière organique par la vie. Donc le pétrole, le charbon proviennent d'êtres vivants, essentiellement par ce processus que vous reconnaissez peut-être, la photosynthèse. Ici j'ai mis une équation très générale, très simplifiée. Donc on fixe du CO2, du dioxyde de carbone, de l'eau, donc des molécules minérales, en présence de lumière qui apporte l'énergie pour produire des molécules organiques, comme celles que vous avez donc à droite pour vous du signe de l'équation. Là, j'ai mis le glucose, c'est 6H12O6. C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. Et les sels minéraux interviennent, alors je ne les ai pas mis dans l'équation de réaction, puisque le glucose ne contient pas, par exemple, de phosphore ou d'azote, etc., mais il pourrait intervenir dans d'autres molécules. Cette photosynthèse, elle est faite par les plantes terrestres et aquatiques. La source principale pour le pétrole, en général, c'est une photosynthèse faite par des algues, souvent des algues marines, pas exclusivement, mais la plupart du temps des algues marines, dont vous avez un petit aperçu de la diversité ici. Algues microscopiques, souvent unicellulaires, donc visibles uniquement avec un assez fort grossissement, avec un microscope. Pour le charbon, en général, il y a des variantes, mais en général, c'est plutôt de la matière organique de plantes terrestres, des forêts, des végétaux continentaux. Je dis forêt au sens large. Ici, vous avez une reconstitution de ce que pouvait être le massif central français au Carbonifère, il y a 300 millions d'années à peu près, 250-300 millions d'années. Donc des végétaux qu'on assimile à des arbres actuels, bien qu'ils soient parfois de familles ou de groupes d'espèces disparues, ou proches des fougères ou des prêles actuels, comme ceux que vous voyez au premier plan. Cette matière organique va ensuite tomber en milieu aquatique, se déposer, donc par exemple dans des lacs, dans des rivières, dans des océans, et exceptionnellement se conserver. Parce que la matière organique, vous le savez tous, quand on la laisse comme ça, elle ne se conserve pas. Si vous laissez une pomme sur votre table, et vous revenez quelques millions d'années plus tard, bon, déjà la table sera peut-être plus là, mais la pomme certainement pas. Si vous faites du compost, vous savez très bien que la matière organique se dégrade progressivement, assez rapidement même. Qu'est-ce qui se passe ? On consomme de l'O2, du dioxygène, et la matière organique de départ est peu à peu dégradée par différents bêtes, insectes, annélides, acariens, etc. Mais aussi beaucoup de micro-organismes, des champignons, des bactéries très diverses, vont dégrader cette matière organique, c'est-à-dire relâcher le CO2 qui avait été consommé au départ par la photosynthèse, et l'eau, bien sûr, en consommant l'O2. Donc en fait, c'est la réaction inverse de la photosynthèse, si on la prend dans ses grandes lignes. Et bien sûr, on a des sels minéraux qui demeurent, et qui peuvent être utilisés lorsqu'on fait du compost. Donc en temps normal, la matière organique ne se conserve pas, il va falloir des circonstances exceptionnelles pour qu'elle se conserve. Donc je suis désolé, mais si vous avez eu un chat quand vous étiez enfant, il ne s'est pas conservé. La matière organique a disparu. Pour lui, a priori, c'est à peu près pareil. Donc il faut des conditions exceptionnelles. Exemple de conditions exceptionnelles, on voit parfois ce qu'on appelle des efflorescences en français ou des blooms en anglais, de plancton. Donc un énorme développement du plancton localement, parce que les conditions sont bonnes, parce qu'on a la bonne luminosité, parce qu'on a assez de sels minéraux, parce que le CO2 est abondant, etc. Parce que la température est convenable, enfin voilà. Toutes ces conditions vont faire que localement, on a une grosse production de matière organique, une grosse productivité primaire. Ça peut être le cas aussi dans une forêt, par exemple une forêt tropicale, une mangrove, comme celle qu'on a reconstituée pour le carbonifère que je vous ai montré précédemment. Donc, beaucoup de photosynthèse, beaucoup de matière organique produite. Cette matière organique va, après la mort des algues ou des végétaux terrestres, sédimenter, tomber. Elle va commencer à être dégradée. Et si elle est très abondante, tout le dioxygène disponible dans une certaine couche d'eau va être consommé par cette dégradation. On va donc arriver à des conditions anoxiques, un manque de dioxygène, qui va limiter la décomposition de la matière organique restante. Donc si elle est très abondante, et bien une petite portion de cette matière organique va avoir du mal à se décomposer et va pouvoir sédimenter, c'est ce qui vous est montré en noir là, sur la partie gauche de l'image. Cette zone où un peu de matière organique se conserve va pouvoir être recouverte par des apports de sédiments. Alors on vous l'a montré ici sur le schéma, par des apports de sédiments détritiques, c'est-à-dire des grains de sable, des argiles venues du continent voisin par exemple. Et si elle est enfouie rapidement, ça va aussi participer à sa préservation, ça va rendre plus compliqué sa dégradation par les micro-organismes. C'est d'autant plus efficace si on est dans un système, comme c'est évoqué par les failles présentes ici, qui s'enfonce régulièrement. Et donc on va pouvoir accumuler de grandes quantités de sédiments, à la fois minéraux et une partie, une certaine proportion de matière organique. Et donc on va pouvoir ainsi former des couches de roches riches en matière organique. Bien. À quoi ça ressemble ? Bon, c'est assez fréquent dans la nature. Souvent des roches assez sombres, assez noires, parce qu'il y a du carbone, hein, la matière organique est assez noirâtre. Souvent finement stratifiées, avec un aspect assez feuilleté, comme ça, que selon toute rigueur, on pourrait désigner comme des argilites, c'est-à-dire des couches d'argile, une roche formée de couches d'argile, dans lesquelles il peut y avoir quelques pourcents de matière organique. Ce qu'on va désigner sous le nom de roche mère. Mer, sous-entendu, qui donne naissance au pétrole, par exemple, ou au gaz. Donc quelques pourcents de matière organique, et ça, c'est pas particulièrement rare dans la nature. On trouve beaucoup de telles roches mères avec quelques pourcentages, un petit pourcentage de matière organique. Cette matière organique n'est pas encore un combustible fossile. Il faut qu'elle mature, il faut qu'elle se transforme. On peut prendre l'analogie du sucre qu'on ferait chauffer et qui progressivement se transforme en caramel. Si on chauffe pas assez fort, ça reste du sucre. Si on chauffe trop fort, on va le dégrader complètement, mais si on chauffe avec les bonnes conditions, avec l'augmentation de la pression liée à l'enfouissement également, on va pouvoir transformer cette matière organique et elle va maturer en plusieurs millions d'années, c'est un processus lent, et donner des combustibles fossiles. Alors voilà un graphique très classique qui montre l'évolution de cette matière organique. Donc vous avez les pourcentages sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, en proportion de la matière initiale. Et puis sur l'axe vertical, vous voyez en descendant, c'est un peu inhabituel peut-être de voir un graphique dans ce sens-là, mais pour les géologues c'est plus intuitif, plus on descend, ben, plus on est en profondeur, et donc aussi généralement plus la température augmente. Quand on se dirige vers l'intérieur de la Terre, la température a tendance à augmenter. Donc au départ, on a une matière organique légèrement transformée, en partie dégradée, qu'on peut appeler un kérogène. On retrouve encore la racine gène qui génère kéros, donc des pétroles, des charbons. Ce kérogène, qui au départ est très abondant, va commencer à être dégradé. Dans les premiers mètres, souvent ce qui domine, c'est une dégradation par des êtres vivants, par des bactéries, qui vivent en l'absence de dioxygène, dans les premières couches de sédiments, et qui vont déjà commencer à simplifier les grandes molécules. Les grosses molécules organiques vont être coupées en molécules plus petites, ce qui généralement en chimie libère une énergie. Donc c'est le petit pic qu'on voit là au départ. On voit qu'il y a un tout petit peu de gaz qui est produit, un petit peu de méthane, qui est produit comme ça en coupant les grosses molécules en molécules plus petites. On a aussi, on voit la zone qui est en blanc, tout à fait à gauche, ce sont des lipides, des graisses, qui étaient présentes dès le départ, non transformées dans les êtres vivants, et qui vont donner une sorte de proto-pétrole, c'est-à-dire une huile pas très transformée. Donc voilà, on a un proto-pétrole, et puis un gaz qu'on va appeler biogénique, fabriqué par les bactéries. Essentiellement du méthane, en général, c'est ce qu'on appelle aussi le gaz des marées, parfois. Vous savez, quand on remue la vase au fond des marées, il y a des bulles qui s'échappent, qui sont inflammables. C'est essentiellement du méthane, avec d'autres molécules mélangées, mais surtout du méthane. Puis, si on s'enfonce un peu plus profond, les transformations vont se poursuivre. Alors voilà un exemple de grosses molécules organiques telles qu'on peut en trouver dans le kérogène initial. Et puis on simplifie, on produit des molécules de plus petite taille, du méthane, CH4, d'autres hydrocarbures un petit peu plus longs, avec plusieurs atomes de carbone liés entre eux. Et puis d'autres molécules comme du CO2, du N2, de l'eau, etc., qui vont avoir tendance à s'échapper. Quand on arrive à une certaine profondeur, autour, on va dire, de 60 degrés Celsius, ce qui correspond souvent à autour de 2000 mètres de profondeur, dans une région normale où la température n'est pas normalement élevée, on va commencer à produire des huiles, c'est-à-dire du pétrole. Donc ce qu'on appelle la fenêtre à huile. Si on va plus loin, ce pétrole va avoir tendance à se couper en molécules plus petites et donc va donner plutôt des gaz. À pression et température ambiante, ce sera plus liquide mais plutôt des gaz. Par exemple, les molécules à 10 carbones vont se transformer en 2 molécules à 5 carbones et ainsi de suite. Et cette simplification va donner plutôt des gaz. Donc si on va plus loin, on va commencer à arriver plutôt dans la fenêtre, dans la zone à gaz où on produit surtout des gaz et un petit peu de pétrole. On parle parfois de gaz humide. Humide, pas parce qu'il y a de l'eau, mais parce qu'il y a un mélange de pétrole et de gaz. Et puis si on va encore plus en profondeur, on va former ce qu'on appelle plutôt du gaz sec, hein, donc du gaz pur. Excusez-moi. Si on va encore plus loin, on va avoir tendance à dégrader complètement ce gaz et à le perdre. Le kérogène initial évolue aussi, se transforme également, et va se rapprocher d'un charbon. Donc souvent, on schématise un petit peu ça comme ça, en partant par exemple de quelque chose qui ressemble à de la tourbe, qui peut se déposer dans certains milieux aquatiques continentaux, qui contient à peu près 50% de carbone. Et bien avec l'enfouissement, on va avoir une évolution. Certaines molécules de petite taille vont s'échapper. L'essentiel de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène va s'échapper. Et progressivement, on va enrichir en carbone, jusqu'à des charbons plus matures, comme l'anthracite, par exemple, à 93% de carbone, voire du graphite pur, du carbone pur. Alors selon les contextes, on va former plutôt majoritairement de l'huile et du gaz, ou plutôt majoritairement des charbons, selon la nature de la matière organique de départ. Si on avait plutôt des végétaux terrestres, plutôt des charbons, si on avait plutôt des algues, je vous ai dit, plutôt des pétroles. Ou des gaz, si on va un peu plus loin, en profondeur. Donc, c'est un petit peu simplificateur ce que je présente, mais c'est l'idée générale. Donc voilà, par exemple, des couches de charbon, éventuellement associées avec un petit peu de pétrole, un petit peu de gaz. De même qu'avec le pétrole et le gaz exploités dans des puits de pétrole, on peut trouver des restes qui ressemblent plutôt à du charbon. Mais c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre en général. Alors que deviennent ensuite ces hydrocarbures? Voilà une représentation de l'Institut français du pétrole, qui s'appelle maintenant, je crois, du pétrole et des énergies renouvelables, quelque chose comme ça. Un petit coup de greenwashing. On voit un système pétrolier. La couche bleue, c'est notre roche mère, qui contenait donc au départ quelques pourcents de matière organique. On voit que dans toute la partie de droite, ben, elle n'est pas descendue suffisamment profond. Donc elle est immature, la matière organique ne s'est pas vraiment transformée en pétrole ou en gaz. Et puis, quand on descend un peu, on arrive à la fenêtre à huile, où on va former du pétrole, puis encore en dessous, du gaz. D'abord gaz humide, gaz et pétrole, puis gaz sec. Ce gaz et ce pétrole vont avoir tendance à migrer vers la surface. Pourquoi ? Essentiellement pour une question de densité. Le pétrole, le gaz sont très peu denses par rapport aux roches qui les entourent, très peu denses par rapport à l'eau, qui imprègnent souvent les roches en profondeur, donc ils vont avoir tendance à être chassés vers la surface. Si les roches sont perméables, poreuses, ou s'il y a présence de fractures, de failles diverses, ils vont profiter de ces fractures pour avoir tendance à s'échapper et à remonter. Alors ils peuvent atteindre la surface, c'est ce que vous ai montré tout à droite, on va avoir alors un suintement de pétrole ou de gaz en surface. Ça n'est pas rare sur Terre, c'est connu au moins depuis l'Antiquité. Exemple français, la fontaine ardente du Dauphiné, pas très loin de Grenoble, on a un suintement naturel de gaz, de méthane, qui est connu depuis longtemps. Alors, il est un petit peu canalisé, là, on a mis quelques tuyaux pour rassembler ce qui suintait de manière diffuse, et on l'a enflammé, et puis ça brûle indéfiniment. Tant que du gaz continue de s'échapper. Autre exemple, le puits de la Poix, près de Clermont-Ferrand. Alors là, la photo date de quelques années, mais je crois que ça a été un petit peu aménagé depuis. Mais il y a quelques années, c'était une espèce de terrain vague que personne ne connaissait, à part quelques géologues. C'est dommage, on pourrait le mettre en valeur pédagogiquement. Alors, je crois que ça a été en partie fait. Donc ce puits de la Poix, bah, c'est du pétrole qui sort naturellement. C'est donc sur la commune de Clermont-Ferrand, pas très loin de l'aéroport. Et c'est naturel, voilà à peu près la coupe de la région, vous voyez le bassin de la Limagne. Et puis ce qui est entouré en noir, là la couche qui est en noir, c'est la couche avec la roche mère, qui est riche en matière organique, et le pétrole qui s'est formé lorsque cette roche mère était portée en profondeur, à plus haute température, plus haute pression, s'est échappé à différents endroits. Alors là vous avez le puits de la Poix qui est indiqué, donc cette source naturelle, la mine des Rois qui est une mine où on trouve des roches qui sont imprégnées de pétrole également, et puis voilà différents autres endroits. Vous voyez qu'en bleu, les failles, quelques failles ont été soulignées qui peuvent guider la remontée de ces hydrocarbures. Vous avez aussi, en bleu plus clair, juste au niveau du puits de la Poix et au niveau de la mine des Rois, des perforations volcaniques, hein, puisqu'il y a le volcanisme de la chaîne des puits dans tout le secteur, qui peut aussi aider ce pétrole à s'échapper en fracturant les roches et en faisant un chemin. Voilà, donc il s'est échappé de cette couche de roche mère et il pointe en surface. Autre exemple célèbre, c'est la Brea Tar Pits. Donc c'est aujourd'hui dans l'agglomération de Los Angeles. C'est du bitume. D'ailleurs, le nom l'indique, hein, la Brea, et comme le puits de la Poix, c'est la même racine, hein, c'est cette idée d'un bitume, de quelque chose de poisseux qui s'échappe en surface. La Brea, c'est particulièrement connu parce qu'il y a beaucoup de grands mammifères qui se sont noyés, piégés dans ce bitume, et qui ont été conservés avec donc une excellente fossilisation. Donc ce pétrole, lorsqu'il arrive en surface, il va s'oxyder, sous l'effet d'être vivant, et puis naturellement, purement chimiquement également, et il va devenir très visqueux, et en général, il est plus utilisable comme combustible. Là, vous voyez, donc il y a des bulles de gaz qui remontent. Hein. C'est d'ailleurs celle qu'on voit dans le film Volcano, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, où le réalisateur insinue que c'est des bulles de gaz volcanique, mais non, à Los Angeles, ce qui remonte, c'est des bulles de méthane, c'est des hydrocarbures. Voilà à quoi ça ressemblait au début du XXe siècle. Donc à l'époque, c'était encore en dehors de l'agglomération de Los Angeles. On voit donc cette mare de bitume, et puis derrière, on voit les puits de pétrole qui avaient été forés pour exploiter la ressource, évidemment, à proximité, puisque c'était évident qu'il y avait du pétrole atteignable assez facilement. et voilà à quoi ça ressemble une fois que ça s'est déjà beaucoup oxydé, donc ça devient très visqueux, donc on peut se servir pour faire l'asphalte des routes par exemple, mais plus tellement comme combustible. Et puis si on laisse attendre, ça finit par se dégrader complètement. Autre cas possible, les sables bitumineux qu'on trouve par exemple au Canada, mais à différents autres endroits, c'est une couche de sable qui est très proche de la surface, juste sous le sol, dans lesquels des pétroles se sont insinués depuis plus loin, depuis plus en profondeur, et ils sont restés en imprégnant ces sables juste sous la surface, et ont été progressivement oxydés, altérés. Donc ça donne des sables qui contiennent un fort pourcentage de bitume, donc de pétrole très altéré. Voilà un peu l'aspect que ça peut avoir. Alors les autres possibilités, c'est que ce pétrole se retrouve piégé, ne réussissent pas à parvenir jusqu'à la surface, ce qui est beaucoup plus intéressant pour un pétrolier qui va pouvoir aller l'exploiter par forage. Donc il faut pour ça qu'il y ait un piège bien disposé, un peu par hasard. Ça peut être différentes choses. On peut faire toute une typologie des pièges, et puis on va aller forer pour aller exploiter le pétrole ou le gaz qui est piégé, ainsi en profondeur. Premier forage, c'est celui de Titus Drake, le fameux colonel Drake. C'est le premier forage productif, il faisait que 21 mètres de profondeur, ça restait assez modeste, mais c'est le premier qui a produit efficacement du pétrole aux États-Unis. Avant ça, il y avait eu quelques autres tentatives, notamment en Allemagne, mais qui n'avaient pas forcément fonctionné. On a simplement utilisé les techniques qu'on avait pour forer des puits pour l'irrigation, et ça a marché. Ça n'a pas vraiment fait la richesse de Titus Drake, mais plutôt d'autres industriels qui ont su l'exploiter un peu plus intelligemment après. Avant ces forages, on exploitait déjà à la marge le bitume ou le pétrole. Par exemple, il y avait une certaine médication qui existait à partir du pétrole ou du bitume chez les Amérindiens, par exemple, ou dans l'Antiquité. On s'en servait pour calfater les bateaux aussi dans l'Antiquité, ou encore pour les feux grégeois. Mais c'est seulement donc à la fin du 19e siècle on a pu commencer à exploiter ce pétrole. Alors, le pétrole, en général, quand on l'exploite ainsi par un puits, il se trouve dans une autre roche que la roche mère, qui est ce qu'on appelle la roche réservoir. Voilà un exemple qu'on peut trouver dans la région de Montpellier. Qu'est-ce que c'est ? Cette roche mère, sa seule propriété vraiment notable, c'est qu'elle est poreuse. C'est un réservoir, c'est une grosse éponge. Donc ça peut être à peu près n'importe quelle roche, du moment qu'il y a des trous suffisants dedans pour accueillir du pétrole ou du gaz. Voilà, donc là, près de Montpellier, vous voyez cet exemple de roche, c'est une dolomie en l'occurrence. Et on voit qu'il y a des petits trous dans la roche, et quand on casse, quand on a une cassure nette de la roche, il y a du pétrole qui s'en échappe, qui était stocké dans cette roche. Voilà un peu ce que ça donne sur le terrain. Alors, la roche mère, on a vu, la roche réservoir, on a dit, c'est juste une grosse éponge. Et il faut bien sûr une roche de couverture par-dessus qui va finir le piège, qui va empêcher ce pétrole de remonter vers la surface. Sa propriété essentielle, c'est d'être imperméable. Exemple de roche imperméable, le sel. Là, c'est les sels messiniens qu'on trouve donc, à différents endroits en Méditerranée, et notamment près de Messine, qui forment des affleurements assez impressionnants. Donc des couches de sel très épaisses, c'est extrêmement imperméable. L'eau ne traverse pas facilement, sans dissoudre en tout cas, et le pétrole ou le gaz sont piégés dessous. Il peut y avoir d'autres choses, ça peut être des argiles, ça peut être n'importe quelle couche imperméable. Voilà, donc on peut imaginer plusieurs dispositions, et on les trouve dans la nature, de pièges, je ne vais pas toutes les détailler, mais en gros n'importe quelle configuration favorable qui va associer une roche mère en profondeur, une roche réservoir au-dessus suffisamment poreuse, et surtout une roche de couverture qui empêche ce pétrole ou ce gaz de s'échapper. Donc ça peut être lié à des plis, ça peut être lié à des failles, à des dômes de sel, à des discordances, des couches qui sont disposées différemment, des couches en profondeur, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses possibles. Et évidemment, quand on voit toutes les conditions nécessaires pour former un gisement de pétrole ou de gaz, on voit que c'est assez rare dans la nature et très inégalement réparti sur Terre. Il faut quand même beaucoup de circonstances à la fois pour avoir conservé la matière organique, pour l'avoir portée à la bonne température pour la transformer en pétrole ou en gaz, pour avoir une roche réservoir au-dessus, pour avoir un piège bien disposé, etc., qui ait conservé cette matière organique transformée en pétrole ou en gaz. Donc c'est évidemment compliqué d'avoir tout ça à la fois. Alors évidemment, la problématique actuelle, c'est que le pétrole conventionnel devient rare. Sur ce graphique, donc, on a découpé... le pétrole. Alors, vous avez le pétrole conventionnel américain en vert. C'est la production de pétrole par année, donc c'est en barils par année, en milliards de barils par année. Donc en vert, c'est les États-Unis continentaux. En bleu clair, c'est l'Europe. En violet, la Russie. Le Moyen-Orient, couleur saumon. Tout le reste, en bleu un peu plus sombre, là. Et puis, ça, c'est les pétroles conventionnels. Et puis, vous voyez qu'il y a d'autres choses qui apparaissent au-dessus. Alors, les NGL, c'est les gaz de pétrole liquéfiés. C'est un petit peu triché de les avoir rajoutés dans ce graphique parce qu'on ne les utilise pas vraiment de la même manière que le pétrole. On les utilise comme carburant, mais un peu différemment. Par contre, ceux-là, ils sont intéressants. C'est les pétroles qu'on va exploiter en eau très profonde. Donc, on va faire des forages sous parfois 10 000 mètres d'eau et aller forer encore dans la roche en dessous. Ceux qui sont en blanc, c'est les pétroles dans les régions polaires, donc avec aussi des contraintes techniques extrêmement fortes. Et ceux qui sont en noir, c'est ce qu'on appelle les pétroles lourds, les hydrocarbures lourds, qui nécessitent vraiment beaucoup d'énergie pour les exploiter et pour les transformer en pétrole utilisable, en essence, etc. Donc, on voit très bien sur ce graphique de la production un certain nombre de crises. Le choc pétrolier des années 70, ici, est bien visible, ça correspond à un maximum momentané de la production. Depuis, la production a de nouveau augmenté. Et puis, on voit que quelque part par ici, sans doute vers 2008, on a atteint le pic de production pétrolière. Et depuis, on produit de moins en moins de pétrole chaque année. Et il y a peu de raisons de penser que ça va changer à l'avenir. Alors évidemment, c'est très difficile d'avoir des données complètes là-dessus. Les industriels ne communiquent pas beaucoup là-dessus, évidemment. Donc ces données sont à prendre avec des pincettes. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous prédire ce qui va se passer jusqu'en 2050, je peux pas non plus vous dire avec certitude ce qui s'est passé dans les dernières années écoulées. Quand on écoute les industriels, les pétroliers, on a souvent l'impression que c'est ce genre de choses qui nous sortent. Si on écoute les militants écologistes, on a plutôt ça. Alors c'est difficile d'avoir un juste milieu entre les deux, puis si on écoute nos décideurs politiques, on a quelque chose qui oscille entre ça et ça. Donc évidemment c'est dur de se faire une opinion. Rien n'est public, tout est en jeu, tout fait en jeu très fort, donc c'est difficile de savoir quoi que ce soit. Alors admettons que ceci soit à peu près juste, on voit que dans les années à venir, ce qui va se développer, c'est surtout ces pétroles non conventionnels, ces hydrocarbures non conventionnels. On commence à envisager l'exploitation de plus en plus massive des pétroles des régions polaires. Pour les pétroles de forage en eau profonde, on est déjà sur la fin, on en a déjà beaucoup exploité, mais on continue, et en prenant toujours plus de risques, en allant toujours plus loin. Et puis, évidemment, il se rajoute les pétroles lourds, notamment ceux qu'on exploite dans les sables bitumineux, j'en reparlerai plus loin. Donc tous ces pétroles non conventionnels, voilà un exemple, l'exploitation de pétrole en milieu arctique, des contraintes techniques très très difficiles, et donc des risques aussi importants de pollution, etc., d'accidents. Les pétroles donc, de forage profond, donc les stations offshore, qui sont de plus en plus loin, avec évidemment des risques d'accidents, donc ça c'est... C'est l'Amoco Cadix, je crois, que j'avais pris comme exemple de marée noire. Et puis, vous avez tous entendu parler, bien sûr, de la catastrophe de Deepwater Horizon, donc qui a été la plus grosse pollution aux États-Unis sur les côtes de Floride, de Louisiane, etc. C'était une station exploitée par BP qui a pris feu, qui a explosé. Donc, évidemment, plus on fort profond, plus on prend des risques et plus il y a des risques d'accidents, même si les techniques évoluent. Mais c'est rentable. Malgré les dégâts écologiques énormes, parce que le pétrole manque. Alors évidemment, l'autre possibilité, à part ces pétroles polaires ou ces pétroles offshore profonds, c'est d'exploiter des hydrocarbures qu'on appelle non conventionnels, qui ne sont pas stockés dans un piège pétrolier comme les précédents, mais qui ont d'autres caractéristiques. Alors on les appelle non conventionnels, mais en fait c'est assez mal dénommé, puisque ce qui est non conventionnel, c'est pas tant le pétrole lui-même, ce qu'on veut au contraire, c'est qu'il soit le plus classique possible pour pouvoir continuer à tout faire de la même manière derrière, à brûler du pétrole exactement de la même manière, à faire tourner les mêmes moteurs, etc. Mais ce qui est non conventionnel, c'est le gisement dans lequel on va le trouver. Alors première idée, exploiter ces suintements de pétrole qui arrivent proche de la surface ou à la surface, et qui sont généralement très oxydés, très visqueux, plus proche du bitume que du pétrole. Alors évidemment, on l'exploite massivement en ce moment dans les sables bitumineux. À différents endroits, il y a des gisements à plusieurs endroits, au Venezuela notamment, mais aussi et surtout au Canada, en Alberta, et notamment ceux de l'Athabasca, hein, qui sont extrêmement abondants. Au passage, j'ai vu récemment que nos importations de pétrole issu de ces sables bitumineux avaient fortement augmenté depuis que M. Macron est élu, grâce notamment aux accords d'échange avec le Canada. Et ce n'est pas très surprenant, puisque Total est un des principaux acteurs de l'exploitation là-bas. Alors, à quoi ça ressemble, le gisement ? On a, ici en coupe, hein, c'est à très grande échelle, avec une forte exagération verticale, hein, vous voyez, 1 km pour 100 km. Voilà l'allure générale. Donc, on exploite la zone qui est en noir, tout à fait à droite, qui est donc juste sous la surface, qui est une couche de sable, dans laquelle le pétrole est stocké et en partie oxydé. Ce pétrole, il vient d'une roche mère qui est d'âge dévonien, qui est celle-ci, et qui n'a atteint la bonne profondeur qu'à proximité des rocheuses. On voit que tout l'ensemble a été plié par le poids de la chaîne de montagne, et donc ces roches ont été portées en profondeur. La matière organique qui était présente dedans est devenue mature, est devenue du pétrole, et ce pétrole a migré sur plusieurs centaines de kilomètres en biais jusqu'à atteindre ces sables proches de la surface. Voilà à peu près à quoi ressemble le gisement. Alors comment on les exploite ? On commence par décaper la forêt boréale, on enlève le sol, et on exploite sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur la couche de sable bitumineux. Donc avec des camions gigantesques, il y en a certains qui transportent 300 tonnes en un seul chargement. Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, l'échelle est difficile à imaginer, mais c'est des engins gigantesques. Et puis ensuite, ces sables bitumineux, on les transforme sur place, on les chauffe essentiellement pour essayer de séparer les composants les plus légers du sable. Il y a à peu près une dizaine de pourcents de bitume dans le sable, et dans ce bitume, seule une partie est réellement exploitable, donc on doit chauffer. Et du coup, c'est extrêmement énergivore. On brûle à peu près une tonne de pétrole pour en extraire deux. Voilà. Autre solution qui est assez pratiquée, c'est l'exploitation in situ. Vous voyez sur la droite, on injecte directement de la vapeur d'eau très chaude et sous pression dans la couche de sable bitumineux, et on récupère, par un autre forage, le pétrole liquide qui s'en échappe. Dans tous les cas, c'est évidemment très lourd comme impact sur le paysage. Alors quand c'est en exploitation découverte, c'est sans doute le pire, mais l'exploitation souterraine génère aussi des grandes quantités d'eau polluée, etc., qu'il va falloir retraiter. Et donc, vous voyez un petit peu le genre de paysage que ça donne. Voilà, la région de Fort McMurray. Donc ça ressemble un peu au Mordor. Alors ça pollue lourdement pour plusieurs raisons. Déjà parce que le pétrole en soi peut être polluant, parce qu'éventuellement il peut y avoir des additifs qui sont apportés qui sont polluants. Et puis très souvent la matière organique, et ça c'est totalement naturel, elle est associée à des métaux lourds, par divers processus géologiques que je ne vais pas détailler, mais en général, lorsqu'on a de la matière organique réduite, on va capturer aussi un certain nombre de métaux lourds, du plomb par exemple, mais aussi de l'uranium, et différents éléments radioactifs qui sont associés et qui donc ont tendance à être libérés quand on exploite ce pétrole. Mais c'est rentable, puisque le prix du pétrole monte. Tant que le prix du pétrole est proche de 100 dollars le baril, l'exploitation de ces sables bitumineux est rentable. Quand le prix du pétrole est un peu retombé, on avait un peu ralenti l'exploitation, puis là ça reprend. Ça plombe pas mal le bilan carbone du Canada, vous vous en doutez, mais ça améliore beaucoup l'économie de certaines régions comme l'Alberta qui était plutôt délaissée jusque-là, donc l'exploitation continue. Autre possibilité de pétrole non conventionnel, exploiter directement la roche mère immature, qui n'a pas été portée suffisamment loin en profondeur pour avoir donné réellement du pétrole. Alors si on exploite directement la roche mère, on va extraire cette roche mère qui contient donc quelques pourcents de matière organique. On peut la brûler directement, donc brûler cette espèce d'argile contenant un peu de matière organique. C'est ce que fait l'Estonie. C'est son mode principal de production d'électricité. Alors c'est associé à une énorme pollution de l'air et des eaux. L'autre possibilité, c'est d'essayer de transformer cette roche mère pour essayer de finir artificiellement la maturation qui n'a pas eu lieu naturellement, géologiquement. Donc on peut la chauffer autour de 450-500 degrés, en absence d'O2, évidemment, pour pas qu'elle s'oxyde. Et ainsi, on espère récupérer quelque chose qui ressemble plus à du pétrole classique. Donc on obtient des pétroles et des gaz non conventionnels. On fait une sorte de distillation. Et pour ça, on peut dire cocorico, puisque on est les premiers en Bourgogne à avoir fait ce genre de choses dans le secteur d'Autun, avec l'exploitation de roches au niveau de la mine d'Etello, de l'usine Etello, etc. Donc qu'on appelle schiste, c'est pas un schiste au sens strict, mais j'y reviendrai, mais en tout cas qui est une roche mère qu'on exploitait. Donc si vous voyez le chevalement de la mine, voilà, on concasse cette roche mère, on la broie, on la chauffe dans des systèmes de distillation industriels, et on récupère du pétrole, du gaz de schiste. Alors ça n'a jamais été rentable réellement au niveau d'Autun. Ça a généré des impacts sur le paysage. Là, on voit l'usine à l'époque, et puis bon, aujourd'hui, il y a toujours ces énormes terris. Mais on peut dire que la France a été pionnière dans le domaine. Donc, on extrait cette roche mère de pétrole. Je reviens un petit peu sur la dénomination de schiste, qu'on a tendance à employer assez souvent. Au sens strict, cette roche mère, c'est une roche sédimentaire. On devrait la désigner plutôt comme une argilite noire, hein, une roche formée d'argile, riche en matière organique. Ça n'a rien à voir avec un schiste au sens strict pour les géologues, un véritable schiste. C'est une roche métamorphique, c'est-à-dire une roche formée à l'intérieur d'une chaîne de montagnes à très forte pression, très forte température, des pressions qui seraient totalement incompatibles avec la conservation d'un pétrole, si jamais il y en avait. Donc le terme de schiste est inapproprié. Là, vous avez un exemple de véritable schiste, c'est au niveau de la côte basque, hein, c'est dans la formation des Pyrénées qu'on a formé ces magnifiques plis. Donc ça n'a rien à voir, quand on dit gaz de schiste, c'est souvent doublement faux. Déjà parce que c'est pas un schiste, et ensuite parce que souvent c'est plutôt du pétrole qu'on cherche à récupérer que du gaz. Donc on devrait dire hydrocarbure de roche mère, ce serait plus correct. Pétrole de roche mère, gaz de roche mère, mais pas de schiste. En anglais d'ailleurs, c'est pas le mot schiste, c'est le mot shale, qui donc correspond plutôt à une argile. Alors, on exploite donc directement cette roche mère, plus ou moins mature. Même dans cette roche mère, on peut parfois exploiter en profondeur directement le gaz qui s'échappe. Alors là, vous avez plusieurs cas d'hydrocarbures non conventionnels. Je vais m'intéresser d'abord à celui-là. On s'intéresse au gaz naturel qui est présent en association avec les veines de charbon, par exemple, qui autrefois était redouté des mineurs, c'est le célèbre coup de grisou, hein, ce gaz très inflammable qui peut provoquer des explosions ou des étouffements. C'est totalement naturel qu'il y ait du méthane associé au charbon, il s'est formé en même temps, du méthane et d'autres hydrocarbures gazeux, et on peut chercher à les récupérer, soit au niveau d'anciennes mines de charbon abandonnées, c'est ce qu'on fait dans le nord de la France, par exemple, vers la frontière avec le Luxembourg, ou même au niveau de mes veines de charbon qu'on n'a jamais exploitées en profondeur et qu'on va fracturer et on va essayer de récupérer le gaz. Le fait d'avoir ouvert la mine, en général, a diminué la pression dans les anciennes mines et donc libère ce méthane qui va pouvoir être simplement pompé à la sortie des galeries de mine. D'autant plus que souvent ces galeries de mine abandonnées, elles sont inondées progressivement, donc ça fait un espèce d'effet piston qui chasse le gaz vers la surface. C'est plutôt intelligent de le faire. D'abord, c'est une ressource pratique, exploitable, mais aussi parce que c'est pas forcément très bon de laisser ce gaz s'échapper de toute façon dans l'atmosphère. D'abord, il y a un risque d'explosion. On a un gaz inodore, incolore, extrêmement inflammable qui s'échappe. C'est pas forcément très bien. Et puis en plus, parce que le méthane en soi est un gaz à effet de serre très puissant. Donc, à la limite, il vaut mieux le brûler et le transformer en CO2. C'est plus intelligent que de le laisser fuir simplement. Le CO2 est aussi un gaz à effet de serre, mais un peu moins puissant. Voilà, donc ce gaz de charbon, donc il est absorbé à la surface du charbon et il se libère si on diminue la pression, si on fracture la roche. On peut soit donc exploiter les anciennes galeries de mine, soit utiliser des techniques proches de ce qu'on verra plus tard pour l'exploitation du gaz de schiste, c'est-à-dire injecter de l'eau sous pression, fracturer la roche, récupérer l'eau mêlée de gaz, séparer les deux, et ça pose des problèmes assez similaires à l'exploitation du gaz de schiste, au sens où on a des grandes quantités d'eau sale qu'il faut retraiter, et des problèmes liés à la fracturation elle-même. Donc ça, les Américains le font assez largement Donc on voit un peu les deux cas possibles ici, soit l'exploitation de gaz d'anciennes mines de charbon, soit un forage dans des couches de charbon qui n'ont pas forcément été exploitées. On va essayer de faire des forages horizontaux, de fracturer et de récupérer ce gaz, séparer le gaz de l'eau qui a servi à la fracturation et utiliser le gaz. Alors j'arrive au cœur du sujet, les gaz et pétrole de schiste. On est dans ce schéma-là, non plus sur le gaz de charbon qui est en haut, qu'on appelle aussi gaz de couche, mais sur les deux cas qui sont en dessous. Alors, première possibilité, qui est montrée là avec mes ellipses rouges, ce qu'on appelle le donc, tight sand gas, ou tight sand oil, ce serait du gaz de roche extrêmement peu perméable. C'est-à-dire c'est du gaz ou du pétrole qui a pu s'échapper de la roche mère, qui allait dans une roche réservoir, et puis pour une raison ou pour une autre, avec l'enfouissement par exemple, cette roche est devenue imperméable. Par exemple, les grains se sont soudés entre eux avec l'enfouissement, ou des dépôts minéraux ont bloqué complètement les pores de la roche, et ce gaz n'est plus exploitable. Même si on fait un forage, on exploite à la limite les quelques pores juste autour du puits de forage, et pas beaucoup plus loin, parce qu'il n'y a plus de perméabilité. Ou deuxième cas possible, on va exploiter directement la roche mère, qui, pour une raison ou pour une autre, était imperméable dès le départ et n'a pas laissé s'échapper les hydrocarbures, même matures. Donc le problème est à peu près le même, c'est-à-dire on a du pétrole ou du gaz mature, classique, mais qui ne veut pas s'échapper parce que la roche est imperméable. C'est ça, les pétroles et gaz de roche mère, ou de réservoirs étanches. Donc, comment on va faire? On va forer des puits, exactement de la même manière que pour le pétrole et le gaz non conventionnel, mais il va falloir libérer ce gaz ou ce pétrole. Alors, vous voyez un petit peu les réserves connues et exploitées aux États-Unis. Les États-Unis sont particulièrement riches en roches mères de ce type, qui contiennent beaucoup de pétrole. Vous avez les principaux qui sont exploités ou qui étaient prévus à exploiter. Alors à l'heure actuelle, ils sont exploités parce que ma diapo date un petit peu. Voilà. Avec des caractéristiques différentes des roches, selon les réservoirs. Par exemple, celui de Marcellus, là sur la côte est, on va avoir un gaz, essentiellement du gaz, très sec, très peu de pétrole, beaucoup de gaz. Celui de Bakken, qui est vers le Dakota du Nord, à la frontière canadienne, on va avoir là un mélange de pétrole et de gaz. Donc on a des conditions un peu différentes, des profondeurs différentes, qui rendent l'exploitation un peu variable d'un endroit à l'autre. Alors regardons d'un peu plus près le cas du gisement de Marcellus, donc sur la côte est. Voilà un peu à quoi ça ressemble en coupe. Ce qui nous intéresse, c'est la roche mère qui est en noir, ici. Donc qui est riche en matière organique. Elle est descendue, vous voyez, assez en profondeur. C'est lié à la formation des Appalaches, qui a plié tout le secteur, formé ainsi un bassin de plusieurs kilomètres de profondeur. Dans ce bassin, on peut s'accumuler des grandes quantités de sédiments. Alors, vous voyez qu'il y a un mélange de grès, sandstone, donc des sables accumulés et transformés en grès, d'argile, shale, ici, et un certain pourcentage de matière organique dans cette couche-là de base en noir. Avec l'enfouissement, cette matière organique est devenue du pétrole ou du gaz, mais elle est piégée dans la roche qui est extrêmement imperméable. Et un simple forage ne la libère pas. Voilà un peu l'histoire de la formation, simplifiée, en coupe. On voit donc les Appalaches qui se forment sur la droite, avec des chevauchements successifs et la formation d'une chaîne de montagnes, il y a plusieurs millions d'années, parce que les Appalaches actuellement, c'est plus très haut. C'est à peu près la même époque, enfin c'est la même époque que le Massif central français, les Vosges, l'Armorique, etc. Et puis on voit donc ces couches noires, hein, ces argilites noires qui se déposent dans un bassin à la limite des Appalaches et qui sont peu à peu enfouies par cette flexion de tout le secteur et recouvertes par d'autres sédiments et ainsi transformées. Voilà. En carte, ce que ça donne avec la profondeur, alors c'est en pied, hein, c'est les Américains. Et donc vous voyez que plus on se rapproche des Appalaches à l'est, et plus la couche noire est en profondeur. Vous avez une petite limite en pointillé qui est intéressante. Ici, c'est la limite où on passe d'un gaz humide, c'est-à-dire qui contient une certaine proportion de pétrole, à un gaz sec, où on n'a plus que du gaz. C'est intéressant parce que c'est pas si facile à exploiter le mélange des deux. Donc les pétroliers vont d'abord forer pour extraire le gaz sec, et ensuite éventuellement s'intéresser au gaz humide, où là il faudra des opérations supplémentaires pour séparer le pétrole du gaz, ce qui n'est pas simple, techniquement. Et donc vous voyez que ça s'étend sur une zone assez large, hein, de la côte est, à proximité de la côte est. Donc on va forer jusqu'à la couche, et puis comment est-ce qu'on va faire pour libérer ce pétrole ou ce gaz qui est piégé. Alors déjà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble les puits au cours des années dans le secteur. Vous voyez que ça a vraiment explosé le nombre de puits dans le secteur. Et là on arrive à la fin de l'exploitation hein, globalement dans ce secteur-là. Pour vous donner un ordre de grandeur à une échelle plus large, aux États-Unis on considère qu'il y a plus de 700 000 puits qui ont été forés pour le gaz et pétrole non conventionnel, pour le gaz de schiste. Donc c'est très très impressionnant. Alors pourquoi est-ce qu'on a une densité si forte de puits ? Eh bien parce qu'on n'arrive pas à extraire si facilement le gaz. Alors la technique qu'on va utiliser, eh bien, c'est qu'on va injecter de l'eau en grande quantité pour fracturer la roche avec la pression de l'eau. Alors vous voyez un peu l'appareillage que ça donne, ça c'est sur le Barnett Shale au Texas. Hein, donc il y a tout un appareillage élaboré, d'énormes tuyaux et d'énormes réserves d'eau. Là vous voyez tous les réservoirs d'eau qui sont alignés pour aller injecter cette eau sous pression brutalement et ouvrir les fractures de la roche et ainsi espérer récupérer le gaz qui s'échapperait ou le pétrole qui s'échapperait par les fractures. Pour le problème de ça, c'est qu'on fracture qu'à proximité du puits. Donc ça multiplie beaucoup les forages. Alors il y a quelques techniques ici qui sont présentées un peu de manière schématique. Souvent, à partir d'une seule tête de puits, on essaie de faire des forages qui se rapprochent de l'horizontale. Et ainsi, on exploite une zone un petit peu plus large. Mais même comme ça, la densité de puits est beaucoup, beaucoup plus forte que pour des puits de pétrole classiques. C'est un puits tous les 3-4 km, souvent. Donc là, vous voyez les forages qui se rapprochent de l'horizontale, et puis les petits trucs gribouillés comme ça, là, c'est les fractures qui sont schématisées autour des forages horizontaux, qui vont donc drainer le gaz et le pétrole. Alors, problème, ces fractures, elles vont se refermer. Si on injecte de l'eau sous pression, on ouvre la fracture, dès qu'on relâche la pression, les fractures se referment. Donc il a fallu améliorer la technique. Donc il fallait déjà avoir une technique de forage horizontale, il fallait avoir l'idée de fracturer avec de l'eau, et il a fallu rajouter des grains de sable, tout simplement, dans l'eau. Et ces grains de sable vont se loger dans toutes les fissures et les empêcher de se refermer. Alors le problème, c'est que si on fait un mélange d'eau et de grains de sable, ça ne tient pas très longtemps. Donc il faut encore un petit peu améliorer la chose et rajouter des gélifiants. Souvent, c'est des gélifiants alimentaires. Qu'on va ajouter. Et puis souvent, on ajoute tout un tas d'autres produits chimiques qui vont fluidifier, qui vont essayer de faciliter la sortie du gaz ou du pétrole, qui vont avoir divers effets sur la gélification de l'eau, etc. Donc il y a une longue liste d'additifs qu'on ne connaît pas la plupart du temps, puisqu'évidemment il y a du secret industriel là-dessous, qui ne sont pas forcément tous des choses extrêmement dangereuses, mais on peut se poser la question de leur capacité de nuisance. C'est potentiellement des polluants. Voilà, donc on injecte cette eau sous pression avec des grains de sable et des additifs, on fracture, les fractures restent ouvertes, et ensuite on diminue la pression et on repompe l'eau avec tous ces additifs et avec le gaz ou le pétrole. Donc ensuite il faut la séparer en surface, cette eau, pour des hydrocarbures extraits. Donc ça veut dire qu'il faut apporter de l'eau, souvent dans des régions où l'eau n'est pas forcément disponible, donc souvent par camion, donc construire des routes, des chemins, l'injecter, récupérer cette eau, la retraiter, donc parfois aussi de nouveau la transporter sur des grandes distances, etc. Donc on a des risques de nuisance assez importants au niveau du paysage, en termes de pollution, également de risques de pollution et de transport. Vous voyez, la coupe du puits montre bien aussi que le dépuis du puits est totalement imperméable. C'est l'intérêt du pétrolier d'avoir un puits imperméable au départ. Et puis c'est seulement quand on arrive dans la couche productive qu'il est censé être ouvert. Et ça c'est important pour limiter les pollutions. Notamment, bah, vous voyez qu'il y a une couche d'eau qui représente une nappe phréatique proche de la surface qu'on essaye de ne pas toucher. C'est a priori dans l'intérêt du pétrolier de ne pas perdre son pétrole ou son gaz. Mais si il y a ne serait-ce qu'un petit risque pour chacun des puits, puis qu'on multiplie ça par 700 000 puits, ben vous voyez que le risque de pollution, il commence à être plus si négligeable que ça, même en admettant tout un tas de précautions. Surtout que toute cette technique a été largement employée par tout un tas de compagnies, y compris des petites compagnies pétrolières, qui n'avaient pas forcément les mêmes précautions que les géants industriels, parce qu'ils voulaient faire de la rentabilité à court terme, qu'ils n'étaient pas sûrs que l'année suivante, ils seraient encore sur le marché, etc. Donc aux États-Unis, il y a eu pas mal de petites compagnies ou de sous-traitants qui ont travaillé beaucoup plus allemand que ce qu'ils devraient. Et la loi est aussi plus permissive globalement aux États-Unis, dans la plupart des États du moins, qu'en Europe. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble en termes de paysage. Vous voyez tous ces puits partout, et tous ces chemins qui ont été faits pour aller desservir les différents puits. Alors là, on peut se dire que c'est impressionnant, mais en même temps, là, c'est dans le Wyoming, il n'y a pas grand monde. C'est dans le désert, ça ne dérange pas grand monde. Bon. Alors essayons d'aller voir à d'autres endroits, ça c'est toujours le Wyoming, avec les bassins de retraitement des eaux usées. Essayons d'aller voir, par exemple, au niveau du bassin de Marcellus. Là, c'est la côte est, c'est des gens plus civilisés, pour des Américains. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Et c'est assez facile à vérifier. Je vous invite à aller voir vous-même sur Google Maps, ou sur Google Earth plutôt. Vous pouvez voir des cartes au cours du temps, des photos satellites au cours du temps, et vous voyez apparaître ces puits et ces routes. Alors là, c'est un travail qui a été fait donc, par Pierre Thomas de l'ENS de Lyon, pour présenter ça de manière pédagogique. Vous voyez un peu tous les puits qui sont présents. Il s'est amusé à reporter ça sur un plan de la ville de Lyon, pour donner l'échelle. Vous voyez un petit peu le nombre de puits que ça représente. En termes de morcellement du paysage, c'est énorme. Alors, ces puits ne sont pas productifs très longtemps. Lorsqu'on fore et qu'on fracture, en fait, c'est un feu de paille. On extrait pendant quelques années seulement, beaucoup moins longtemps qu'avec un puits classique, parce que les fissures finissent par se refermer, parce qu'on exploite qu'une toute petite zone de la roche autour, etc. Donc, on est obligé de recommencer à forer, ou de fracturer à nouveau le même puits plusieurs fois de suite, etc. Donc, là encore, on augmente l'impact. Et puis, même après la fin de l'exploitation, ces puits demeurent, il reste une tête de puits. Alors c'est assez discret, hein, ça va être une plaque de béton de quelques mètres. On a bouché sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres, on va dire, de profondeur. Mais si vous imaginez ces 700 000 puits ou plus qui sont dispersés un peu partout, c'est assez facile d'imaginer que chacun d'entre eux puisse fuir un tout petit peu, laisser s'échapper un tout petit peu de méthane dans l'atmosphère, par exemple, participer à l'effet de serre, ou laisser s'échapper un peu d'hydrocarbures dans la nappe phréatique. Ou qu'on va oublier l'emplacement de ces différents puits. Parce que dans 3 siècles, je ne suis pas sûr qu'on aura référencé absolument tous les puits très précisément. Et donc un accident industriel peut vite arriver si un bulldozer passe et casse une tête de puits, en voulant faire des fondations d'une maison, par exemple. Donc on a un risque assez important là aussi. Alors, vous avez peut-être vu le film Gasland, dont est tirée cette image, assez célèbre. Donc, c'est un documentaire à charge contre l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, de Josh Fox, donc sorti en 2010. Il montre notamment que dans certaines fermes, bah, quand on approche une allumette du robinet, eh ben, l'eau s'enflamme parce qu'il y a du méthane dedans, il y a des hydrocarbures dedans. Alors, c'est évidemment assez spectaculaire. Bon, ça a été depuis en partie démenti, ce truc-là qui est quand même très, très frappant. Notamment, il y a eu plusieurs analyses scientifiques, etc., pour voir si c'était vrai. Les chercheurs ont très bien montré que, par exemple, plus on se rapproche d'un puits de fracturation hydraulique, plus on trouve de méthane dans l'eau, effectivement, ça c'est vrai. Il y a une relation jusqu'à 8 km à peu près autour d'un puits, on trouve des proportions de méthane. Mais en analysant ce méthane, on se rend compte que c'est surtout du méthane biogénique, c'est-à-dire le méthane qui est produit vraiment dans les toutes premières couches du sous-sol par des bactéries. Donc c'est pas le méthane qui est exploité en profondeur. Ceci dit, on peut tout à fait imaginer que ce méthane biogénique, il a été libéré par la fracturation, qui a perturbé aussi bien les couches en surface que les couches profondes. Et donc effectivement, ça peut contribuer à libérer ce méthane dans l'eau. Surtout que ça se passe aux États-Unis, la plupart des gens en dehors des grandes villes ne sont pas reliés à un réseau d'eau potable, mais ont leur propre puits. Pas forcément avec les mêmes conditions de sécurisation, etc., qu'en France. Donc évidemment, ça c'est assez impressionnant. Et ça a donné lieu à pas mal de débats scientifiques, plus ou moins orientés par les pétroliers. C'est dur d'avoir des données sur les effets sur la santé, par exemple, des gens. Tout simplement parce que généralement, les gens à côté de qui il y a un forage, les pétroliers leur donnent une certaine somme d'argent avec un accord de confidentialité. Donc ils ne peuvent pas participer à des études scientifiques, par contre. Donc, difficile d'avoir des données. Il y a peu d'études. Alors, les effets sur la santé, donc difficile à voir. Cette diapositive, elle résume assez bien les effets qu'on peut envisager à d'autres niveaux. Alors, bien sûr, on voit au niveau de la tête de puits elle-même, on a un risque de fuite de méthane ou d'hydrocarbures divers vers l'atmosphère, vers l'eau. Okay. On a aussi les réservoirs d'eau usée, d'eau sale, qu'il faut retraiter, qu'il faut laisser décanter, etc., qui sont aussi un risque, par exemple en cas d'orage ou de rupture des digues, de pollution des eaux de surface. On a les risques de fuite au niveau du forage lui-même, même si on a dit qu'a priori, ce n'était pas tellement dans l'intérêt du pétrolier d'avoir des tuyaux de mauvaise qualité, mais bon, si on tire à l'économie, ça peut arriver. On voit que, par contre, a priori, le risque de pollution directe depuis la roche-mère vers les aquifères, c'est-à-dire les nappes phréatiques peu profondes, est assez peu probable, puisque ça reste quand même assez éloigné. Hein, on parle de centaines de mètres, souvent de couches imperméables qui séparent les deux. Et puis, une dernière chose qu'on verra ici, c'est l'effet en termes de fracturation et d'activation de failles préexistantes. Alors, face à ces risques plus ou moins avérés selon les cas, la législation aux États-Unis, elle est évidemment très variable. D'un État à l'autre, c'est très très divers. En vert, ce sont les États qui exploitent activement le gaz de schiste. En jaune, ce sont ceux qui ont mis un moratoire provisoire ou qui encadrent de manière très stricte même les activités de recherche autour du gaz de schiste. Et en rouge, c'est le Vermont qui a interdit tout bonnement l'exploitation du gaz de schiste. Donc c'est assez divers en termes de réglementation. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas colorés parce qu'ils n'ont a priori pas de réserve ou qu'ils n'étaient pas concernés au moment de l'étude là sur le dessous des cartes. Et vous voyez en fond violet hein, les principaux gisements concernés. En Europe, c'est aussi extrêmement variable. Hein, il n'y a pas d'uniformité au niveau des réglementations. Vous voyez en vert quelques pays qui font des recherches des débuts d'exploitation. Alors la Suède, le Royaume-Uni ont commencé des recherches pour exploiter le gaz de schiste, qui est présent en petite quantité a priori. Ça a été plutôt décevant, donc je crois qu'actuellement c'est plutôt au point mort. Ça ne marchait pas très bien, parce que c'est des petits gisements. Vous voyez que la France a actuellement un moratoire, on n'a pas le droit de fracturer hydrauliquement, donc on n'exploite pas nos réserves de gaz de schiste qui sont a priori plus conséquentes, vous voyez la taille du réservoir. Le deuxième pays qui aurait les réserves les plus conséquentes, enfin même c'est le premier je crois en Europe, c'est la Pologne, qui a choisi une voie complètement différente de la France, qui exploite très activement ce gaz de schiste, ils exploitaient déjà beaucoup de charbon, etc. Avec des résultats économiques qui sont un peu mitigés, parce que les gisements ne sont pas si faciles à exploiter que ce qu'ils avaient l'air d'être au départ. Et puis la Roumanie, la Bulgarie ont aussi des gisements plutôt intéressants, a priori, mais sont maintenant, alors il faudrait réactualiser, sont maintenant tous les deux, je crois, en situation d'interdiction totale. Il y a eu un moratoire dans les deux pays pour arrêter cette exploitation. Mais donc là aussi, il y a des réglementations très différentes qui ne simplifient pas la compréhension globale du problème. Alors en France, on a un moratoire qui n'est pas sur l'exploitation du gaz de schiste en soi, mais qui est sur la fracturation hydraulique. C'est la technique de fracturation hydraulique qui est interdite. Et ça pose un petit peu problème, parce que ça veut dire que, a priori, on pense qu'il y a des réserves en France, exploitables, mais on ne peut pas le vérifier. On ne peut pas faire d'études scientifiques. On ne peut pas essayer d'aller faire un puits, de fracturer et de voir si ça marche. C'est interdit. Ça me gêne un petit peu que, par principe, on interdise complètement la recherche. Évidemment, si on autorise, il y a toujours un biais et un risque de pied dans la porte pour aller en s'engouffrer ensuite dans une exploitation industrielle. Mais bon, donc la fracturation hydraulique est interdite. Et si je vous ai mis cette image de l'Islande, c'est parce que la fracturation hydraulique, elle est intéressante dans d'autres contextes. Elle sert également, par exemple, quand on veut faire de la géothermie. Et là, c'est une usine géothermique. On va aussi fracturer les roches pour faire rentrer de l'eau froide et ensuite pomper l'eau chaude et l'utiliser soit pour produire de l'électricité, soit à plus petite échelle pour du chauffage urbain, par exemple. Et donc, la fracturation hydraulique, elle pourrait nous servir à d'autres choses. Donc là, au niveau de la loi, c'est peut-être un petit peu bancal. Aux États-Unis, il y avait notamment l'inventeur du fracking, qui est de la fracturation hydraulique, pardon, qui est George Phidias Mitchell, qui est le premier à avoir combiné toutes les techniques pour améliorer cette fracturation et récupérer le gaz de schiste, qui lui-même était un militant ces dernières années pour encadrer plus cette fracturation. Mais d'autres lobbies pétroliers, notamment Halliburton, ont eu raison de ce discours modérateur, notamment en infiltrant le gouvernement Bush. Ils ont beaucoup poussé de lobbying pour autoriser très largement la fracturation. Alors on pourrait aussi envisager d'autres méthodes de fracturation, pas que l'eau. On pourrait envisager des choses assez exotiques, avec du propane, avec du diesel. Hein, au Texas, ça a été tenté, on a fait de la fracturation au diesel. Alors déjà, ça coûte beaucoup plus cher que l'eau. Et puis il y a des problèmes de pollution qui sont quand même assez importants. Donc c'est pas été tellement poursuivi. Alors après, là, c'est des choses qu'on trouve sur les sites de pétroliers. La fracturation au dioxyde de carbone, pourquoi pas? Sauf que le dioxyde de carbone, c'est quand même un peu moins pratique à utiliser que l'eau. Ça coûte plus cher, etc. Il faut le refroidir. Enfin, c'est pas idéal. Puis alors, il y a des trucs qui sont complètement invraisemblables, comme fracturer avec de l'hélium, étant donné que c'est une ressource non renouvelable qui se raréfie franchement sur Terre. J'y crois pas un instant qu'on utilisera l'hélium pour fracturer. Et puis, il y a d'autres choses qui sont envisagées, électriques. Bon, pour le moment, les pétroliers nous disent que ça marche pas. Des explosions. Il y a eu une tentative pour fracturer à la bombe nucléaire, quand même. Ça a été un désastre total, ça marche pas. Mais bon, ça a été tenté. Voilà. Donc, on peut envisager peut-être d'autres techniques qui poseraient moins de problèmes pour l'environnement, mais à mon avis, il y aura toujours des impacts. Si on fracture avec du diesel, c'est probablement pas plus propre qu'avec de l'eau. Et finalement, l'eau reste quand même le fluide le plus abondant, le plus meilleur marché, et qu'on sait le mieux utiliser et retraiter derrière. Donc, bon. Alors, autre problème, je vous ai dit qu'on allait en parler, c'est est-ce qu'on peut induire une sismicité? Si on fracture, si on ouvre des failles, est-ce qu'on ne va pas faciliter des mouvements de grande ampleur et donc déclencher des séismes? Séismes qui auraient peut-être dû se produire dans les siècles, voire les millénaires à venir, mais est-ce qu'on ne va pas les accélérer? Est-ce qu'on ne va pas lubrifier un petit peu la faille et faciliter une rupture? A priori, j'étais un peu sceptique quand j'ai vu cette idée. Bon, oui, est-ce que vraiment on peut avoir un impact à ce niveau-là? Et en fait, les données sont plutôt en faveur de cette théorie. Ça, c'est les séismes de magnitude supérieure à 3 au centre des États-Unis. Et vous voyez que depuis les débuts de la fracturation hydraulique, hein, depuis les années 2000, la fin des années 2000, on a eu une augmentation du nombre de séismes qui est assez impressionnante. Alors, ça pourrait refléter un changement de tectonique des plaques. Mais pourquoi si brutalement et de manière si concomitante? Ça, c'est quand même assez surprenant. Et puis surtout, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont concentrés au nord du Texas, là, dans l'Oklahoma, qui est une région qui a été intensément fracturée et qui était très peu connue comme étant sismique auparavant. Et souvent, ça coïncide vraiment. Les régions qui bougent sismiquement sont celles qui sont fracturées. Donc, il semblerait que ce ne soit pas si invraisemblable que ça. Quelque chose qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille là-dessus, c'était le fait qu'on connaissait déjà une sismicité induite par les barrages, par exemple. Lorsqu'on accumule des milliers de mètres cubes d'eau, et bien cette eau s'infiltre dans les fissures et elle lubrifie un petit peu les fissures et elle facilite des petits séismes. Ben là, on a a priori un phénomène similaire, mais à beaucoup plus grande échelle, puisque la fracturation est très répandue. C'est des séismes qui restent modérés, très peu de dégâts enregistrés, pas de victimes humaines à ma connaissance, mais il y a un effet, et donc il faut le prendre en compte, je pense. Alors après, on peut discuter de l'effet climatique de l'exploitation des gaz de schiste. Alors voilà la production d'électricité aux États-Unis depuis les années 50. Donc bon, les énergies renouvelables progressent un petit peu. L'hydraulique, ça diminue progressivement en proportion. Et vous voyez que le nucléaire est à peu près stable depuis assez longtemps. Et par contre, le gaz naturel progresse très fortement ces derniers temps. Et au contraire, les charbons diminuent. C'est la courbe noire par rapport à la courbe orange. On voit bien qu'il y a une relation assez inverse. Donc le fait d'utiliser, de produire beaucoup de gaz naturel, de gaz de schiste, et de l'utiliser pour produire de l'électricité, vient en concurrence avec les vieilles centrales au charbon. Et ça, c'est peut-être pas si mal pour l'environnement. Parce que si on remplace toutes les centrales au charbon par des centrales au gaz, c'est plutôt plus propre. Voilà par exemple le volume de CO2 émis pour produire 1 mégajoule. Donc avec du gaz, vous voyez que c'est beaucoup plus faible, à peu près 2 fois plus faible qu'avec du charbon. Donc en termes d'effet de serre, c'est peut-être bénéfique. Si on n'a pas d'effet rebond, c'est-à-dire que si les gens ne se mettent pas à consommer plus, parce que c'est plus facile de produire de l'électricité. Voilà un peu les prédictions à l'échelle mondiale qui sont envisagées. Hein. Bon, on voit que quand même globalement, la production de tout, tous les hydrocarbures a tendance à continuer à augmenter, a priori, même si le charbon stagne un petit peu. La progression forte du gaz et du pétrole compense sans doute en grande partie ça. Alors en termes d'effet de serre, on peut parler d'un autre phénomène. Vous connaissez peut-être ces images satellites là, de la Terre de nuit, où on voit donc les grandes villes, etc., les sources de lumière humaine. Et puis il y a quelque chose d'intrigant, si on regarde cette image qui est disponible gratuitement sur le site de la NASA, il y a une grosse tache là, au niveau du Dakota du Nord. Et ce n'est pas une ville. Dakota du Nord, il n'y a pas grand monde. Hein. Quelque chose comme 2 millions d'habitants. C'est ça, c'est le torchage. C'est qu'on brûle du gaz. Une partie du gaz qui est extrait est brûlée sur place. C'est le torchage. Alors pourquoi on fait ça? Si le but c'est d'exploiter du gaz, pourquoi est-ce qu'on le brûle bêtement comme ça? Ben, la réponse c'est qu'on ne cherche pas à exploiter le gaz éventuellement, principalement à cet endroit-là. C'est du gaz humide, c'est-à-dire il y a du pétrole. Et ce que les pétroliers veulent avant tout, c'est le pétrole, parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc ils exploitent le pétrole, et puis le gaz qui est présent en excédent, ben, ils le brûlent. Alors ils pourraient le rentabiliser, mais ça veut dire construire des pipelines, des systèmes de stockage, de pressurisation, etc., ce qui est très coûteux, surtout dans une région très vide. Et du coup, ben, pour une bonne partie, ils préfèrent le brûler. Donc là, pour le coup, l'impact climatique, il n'est pas si positif que ça. Construire des terminaux pour le gaz, c'est compliqué. C'est compliqué de transporter le gaz sur de grandes distances. Globalement, le gaz, il est plutôt à une échelle continentale au mieux. On le transporte à l'échelle d'un continent, mais très rarement d'un continent à l'autre, par exemple. Alors, ça change un petit peu. Par exemple, les États-Unis qui avaient des ports méthaniers pour importer du gaz sont en train de les convertir pour exporter du gaz, mais ça reste assez marginal, économiquement et en volume. Alors, à quoi ça ressemble le Dakota du Nord depuis qu'on s'est mis à exploiter le pétrole de schiste, essentiellement, donc, et puis un petit peu le gaz à la marge? Bon, bah, c'est assez vide à la base, le Dakota du Nord. Hein, c'est là où se passe le film Fargo. Il n'y a pas grand-chose à part de la neige. Mais donc, ils se sont mis à exploiter massivement le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Alors, il y a eu un boom économique impressionnant. J'essaie de retrouver les chiffres. Oui, voilà, ils étaient à la 39e place dans les États américains en termes de PIB. Ils sont passés à la 10e place. Il y a eu une sorte de ruée vers l'or. Il y a eu un moment où ils avaient quelque chose comme 14% de croissance annuelle. C'en était au point qu'il y avait des files devant tous les magasins. Toutes les infrastructures étaient complètement prises de court. Les gens chez Walmart posaient juste les caisses par terre et les gens se servaient, ça disparaissait avant même de les mettre en rayon. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Alors d'une façon générale, les économistes ont tendance à dire que ça a été positif pour les USA d'exploiter le gaz et le pétrole de schiste. Il y a eu un effet énorme. Là, évidemment, les USA ont une indépendance énergétique accrue. Ils étaient gros importateurs de pétrole, ils sont devenus exportateurs et puis bientôt premier exportateur mondial à cause du pétrole de schiste. Le prix du baril a fortement diminué. Hein. Vous voyez l'évolution de la production associée au prix du baril ici aux USA. Ça a créé sans doute un très grand nombre d'emplois. Alors le nombre est discuté. Certains disent plutôt 100 000 emplois, d'autres disent plutôt 1 million. C'est un peu le grand écart entre les deux. Je ne suis pas économiste, pas vraiment tranché, mais voilà, c'est très discuté. Ça a boosté certains domaines économiques qui étaient très énergivores ou très gazivores, comme l'industrie chimique notamment, l'aluminium, hein, qui se sont mis à fonctionner beaucoup plus. Ça les a sans doute aidés à sortir de la crise économique beaucoup plus rapidement que l'Europe. Voilà. Mais la question se pose en termes d'emploi, par exemple, est-ce que c'est durable? Souvent, les emplois, ils ont l'air d'être créés lorsqu'on fore, lorsqu'on fracture. Et puis ensuite, il n'y a plus besoin de quelqu'un pour gérer le puits. Donc c'est un peu un feu de paille, à la fois en termes de production et en termes de création d'emplois, semblerait. Et sans doute, le prix du gaz de schiste est un peu sous-évalué actuellement et ça va se rééquilibrer un peu plus. Alors l'impact à l'échelle mondiale. Ah oui, non, c'est encore sur les États-Unis, juste pour voir les projections en termes de production de gaz. Donc on voit, en jaune, c'est le gaz conventionnel de l'Alaska, en bleu, le gaz conventionnel des 48 États continentaux. En noir, c'est le gaz de charbon, je ne progresse pas beaucoup. En rouge, c'est les 48 États continentaux, en bleu, c'était offshore, pardon. Le tight gas, c'est donc le gaz de réservoir étanche qu'on a vu précédemment, qui progresse un peu. Et puis, vous voyez que le shale gas, c'est-à-dire le gaz de schiste, le gaz de roche-mer, lui, il a fortement progressé, et sans doute, il va encore progresser. Alors, est-ce que ça a un impact à l'échelle mondiale? Eh bien, pas tellement. Si vous regardez ici le prix du gaz, en bleu, aux États-Unis, on voit qu'il y a une forte chute depuis les débuts du gaz de schiste, hein, fin des années 2000. Donc le prix du gaz s'est stabilisé beaucoup plus bas, mais par contre, vous voyez que la zone européenne et puis la zone asiatique, il n'y a pas d'énormes changements. Pourquoi ? Ben parce que je vous l'ai dit, le gaz il n'est pas tellement transporté à l'échelle mondiale. Le charbon, on le transporte, le pétrole, on le transporte, le gaz beaucoup moins, beaucoup plus difficilement et de manière beaucoup plus coûteuse. Par contre, on a des effets induits qui sont indirects. Comme les États-Unis utilisent plus de gaz, ils utilisent moins de charbon, du coup le prix du charbon baisse, et un certain nombre de pays se sont tournés vers l'exploitation de davantage de charbon, notamment l'Europe consomme beaucoup plus de charbon. Si on remet ça en perspective avec l'effet climatique dont on a parlé précédemment, on voit que finalement c'est pas si positif à l'échelle mondiale. Alors voilà un navire méthanier, donc je vous ai dit ça c'est assez minoritaire à l'échelle mondiale. Alors, est-ce que ce changement radical qui s'est produit aux États-Unis, il est transposable ailleurs, en Europe, par exemple, en France en particulier? Voilà les pays dont on pense qu'ils ont des réserves en gaz ou en pétrole de schiste. Donc en rouge, c'est les ressources possibles. Le premier, a priori, c'est la Chine, comme souvent, quelle que soit la phrase. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des réserves prouvées donc importantes aux USA, au Canada, en Russie, en Algérie, en Argentine, en Libye. Et il y en a aussi, vous voyez, quelques-unes en Europe. Est-ce que ça va changer les choses si on exploite le gaz en France ou en Europe? C'est pas sûr. Déjà, nos contrats, ils courent sur des durées très longues. On a des accords d'importation de gaz avec l'Algérie, avec la Russie, avec les Pays-Bas, avec la Norvège, qui courent sur des dizaines d'années. Donc ça va prendre du temps, de toute façon, avant de changer quoi que ce soit. Et puis, ces réserves, elles sont peu explorées en Europe, vu la résistance des populations notamment. On en sait assez peu de choses. Et donc les réserves prouvées, c'est assez différent des réserves probables ou des réserves possibles. En gros, pour schématiser, les réserves prouvées, c'est ce qu'on peut exploiter de façon rentable actuellement, avec les techniques actuelles. Les réserves probables, c'est celles qu'on a de bonnes chances de réussir à exploiter, une chance sur deux, à peu près. Et puis, alors, les réserves possibles, là, c'est beaucoup plus flou. Alors, évidemment, ces réserves, elles peuvent basculer d'une catégorie à l'autre. Si on améliore les techniques, y a des réserves probables qui diminuent et des réserves prouvées qui augmentent. On passe d'une catégorie à l'autre. Et puis, elles changent aussi selon qui fait l'étude. Si c'est un pétrolier qui veut acheter des droits d'exploitation dans une zone donnée, il va dire que les réserves prouvées sont assez basses pour limiter le prix. Une fois qu'il a acheté, il va dire qu'elles sont très hautes pour faire monter son action. Si c'est un État, il va aussi avoir intérêt à mentir sur les chiffres, etc. Donc ça aussi, c'est très très difficile à savoir, surtout que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'études, tout simplement. Pas d'études rigoureuses, pas d'études approfondies, pas de forages, hein, qui remplaceront, qui pourront jamais être remplacées par des études de loin un peu théoriques. Il faut des études de terrain. Alors, on l'avait dit tout à l'heure, les réserves principales en Europe, c'est surtout la Pologne et la France, a priori, avec des gros guillemets, hein, des grosses pincettes, parce que beaucoup de choses qui ne sont pas sues. Je vous ai dit, la situation politico-économique, elle est très variable, la Pologne exploite actuellement, mais les résultats sont un peu décevants par rapport aux analyses initiales. Et puis en France, on a commencé à donner des concessions pour de l'exploration, et puis finalement, ça a été tout arrêté dans les années Sarkozy. Donc les réglementations varient beaucoup. Alors évidemment, il y a une résistance très importante de la population. Mais même si tout le monde admettait qu'utiliser le gaz de schiste est intéressant et utile, les réserves sont probablement pas aussi importantes qu'aux États-Unis et ne seraient pas un game changer en Europe comme elles l'ont été aux États-Unis. Ça bouleversera pas l'économie. A priori, pas de la même manière. S'il y a des emplois qui sont créés, même si on exploitait massivement le gaz de schiste en France, ce serait peut-être au mieux quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'emplois qui seraient créés. Un par puits, à peu près. Ça ne serait pas non plus quelque chose d'énorme. Pour inverser la courbe du chômage, c'est pas tout à fait au point. La géologie n'est pas du tout la même qu'aux USA. En Europe, on a plutôt des petits bassins, plus les couches sont plus difficiles à exploiter, donc probablement ça serait moins rentable. Les problèmes d'eau se posent de manière différente. Si on exploite du gaz de schiste dans le bassin parisien, bon, bah, l'eau est plutôt abondante, on peut se dire que ça ne sera pas forcément un problème majeur. Si on l'exploite dans le sud-est, notamment en Aveyron, où il y a des réserves prouvées assez importantes, là on va se trouver dans des systèmes karstiques, dans des calcaires, où l'eau est rare, à des circulations très imprévisibles. Là, il va y avoir des problèmes de conflit sur l'exploitation de l'eau avec les agriculteurs, avec les villes, qui vont être beaucoup plus importants. Et des problèmes s'il y a des pollutions. Alors voilà un peu les zones qui seraient possibles. Vous avez le pétrole et gaz conventionnel, alors surtout le gaz de lac en Aquitaine, et puis un petit peu de pétrole dans le bassin parisien. Et puis vous avez, donc dans le bassin parisien, on envisage qu'il y aurait du pétrole de schiste exploitable. Et puis donc dans le bassin du sud-est, plutôt du gaz de schiste, avec donc des problèmes d'eau qui sont beaucoup plus importants en climat méditerranéen. Alors, en conclusion, est-ce qu'il faut exploiter le gaz de schiste en France ? Essayons d'avoir un débat serein. Je vais vous lister un petit peu les points positifs et les points négatifs, selon moi, selon mon humble opinion. Contre, clairement, un risque de pollution de l'eau, de l'air, des sols, qui est avéré. Multiplié par le nombre de puits, à mon avis, il est avéré. Même si on peut se dire qu'avec une réglementation stricte, avec des solutions techniques adaptées, on peut le limiter, ce risque. Une consommation d'eau importante. Pas forcément plus importante que d'autres activités. Si on prend l'industrie papetière, par exemple, on est dans des chiffres comparables, mais importantes quand même. Qui pose des problèmes variables selon le climat, selon le contexte. Un impact climatique, plutôt négatif globalement, puisque le but c'est quand même d'exploiter plus d'hydrocarbures et de les brûler, donc a priori plutôt négatif, même s'il peut y avoir des effets, par exemple par rapport au charbon, qui sont discutables. Une transition énergétique, a priori, qui est retardée. Alors, aux États-Unis, certains estiment que les États-Unis ont perdu à peu près 10 ans sur la transition énergétique avec cette exploitation massive du pétrole et du gaz de schiste. Une fragmentation des paysages, on a vu que c'était assez spectaculaire. Une multiplication des forages, puisque chaque forage produit assez peu de temps et n'exploite qu'une petite zone. Le risque de sismicité induite, qu'on a mentionné. Et des réserves mal connues, moins exploitables qu'aux USA a priori, mais ça reste à démontrer. Des effets économiques qui sont très discutés, et encore une fois, je ne suis pas le plus compétent pour en parler, mais qui ne seraient pas, en tout cas, une révolution. Et surtout, c'est un gros problème de démocratie, puisqu'il y a une très forte opposition dans la population à l'exploitation du gaz de schiste. Donc la question se pose quand même, est-ce qu'on peut le faire, même si on pense que c'est bien, contre l'avis de la majorité des gens ? Pour, il y a des choses pour. Des défis techniques, ça peut être relevé. Les risques de pollution, etc., on peut les combattre. Ça a été fait dans le passé. Je pense par exemple au gaz qui était exploité à Lac, en Aquitaine, au départ. C'était quelque chose de très inhabituel. C'est du gaz conventionnel, mais il était très profond et il était très riche en soufre. Et ben, des solutions techniques ont été trouvées pour retraiter le soufre, pour exploiter de manière sûre. Et on a exploité ce gaz sans impact majeur, on va dire. Même si on peut discuter localement sur les pollutions. Ça renforcerait notre indépendance énergétique, puisqu'actuellement, le pétrole et le gaz qu'on consomme, ils viennent de loin, et de pays pas forcément très sympathiques, ni très stables. On aurait des bénéfices économiques, même si là encore, ils sont discutés. Ça créerait des emplois, certainement. On aurait des effets environnementaux qu'on peut imaginer plus modérés en France que si on va le faire ailleurs. Parce que c'est bien beau de dire « Ok, je veux pas de gaz de schiste ou de pétrole de schiste exploité derrière chez moi. » Mais en même temps, on consomme quand même du pétrole et du gaz. Donc à un moment, il faut être cohérent. Il faut qu'ils viennent de quelque part. Et si on l'exploite en Russie, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus propre que ce qu'on pourrait faire chez nous. Sauf qu'on le voit pas, c'est loin. Quand on l'exploite au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, etc., ça gêne personne. Pourtant, les impacts en termes de pollution, ils sont certainement beaucoup plus lourds que si on faisait la même activité chez nous. Donc là, on est un peu un contre-argument par rapport au NIMBY. NIMBY, c'est « not in my backyard », c'est-à-dire « oui, ok, je veux bien qu'on le fasse, mais pas dans mon jardin. Vous pouvez faire une déchetterie, mais pas sur ma commune. Vous pouvez faire des éoliennes, mais loin, etc. On transporterait de manière limitée ce gaz, donc c'est de la consommation locale, ça devrait réjouir les écologistes. On a une souplesse d'utilisation avec le gaz. Si on se met à utiliser plus de gaz, ben, c'est très efficace. Une centrale à gaz, ça démarre en quelques minutes, par rapport à une centrale nucléaire qui met presque 24 heures à atteindre sa puissance maximale. Donc ça permet, par exemple, de l'associer avec des solutions renouvelables. Les éoliennes, les panneaux solaires qui ont un problème de variation très forte dans le temps, hein, dès qu'il n'y a plus de vent, dès qu'il n'y a plus de soleil, ben, on a une chute. Ben, peut-être qu'en l'associant avec des centrales au gaz, on arriverait à compenser cette variation, ce qu'on ne peut pas faire avec le nucléaire. Et ben, donc ça, c'est quelque chose à penser aussi. Oui, voilà, je pense que j'ai terminé. Merci pour votre attention.
Je vais vous féliciter parce que je connais bien le sujet et je trouve que vous avez fait une synthèse qui est tout à fait équilibrée et complète. Hein. Donc, je suis quand même un peu spécialiste de cette chose-là et donc j'ai rien à redire à ce que vous avez dit, globalement. Voilà, donc c'est bien. Hein. Les plus, les moins, les choses comme ça.
Mais donc, s'il y a des plus spécialistes que moi, je suis voilà, avide de retour, notamment dans le domaine
donc,
économique.
On accepte les questions. C'est fait pour ça. Oui. Alors, vas-y.
Je pense que dans les cours, il faudrait peut-être regarder
la balance
commerciale.
Oui, l'indépendance énergétique. Enfin, c'est balance commerciale. Je rappelle qu'on achète du pétrole depuis longtemps. On l'achète ailleurs. Donc, on a quand même un déficit commercial. La moitié de notre déficit commercial, c'est le pétrole et le gaz. Donc, pourvu que ça dure, hein, mais ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Hein. Donc, ça, c'est le problème. Et dans la résistance des Allemands vis-à-vis du charbon, il y a beaucoup de paramètres, mais il y a aussi ce paramètre-là, c'est qu'ils ont ils ont beaucoup moins de dans leur balance. D'abord, ils sont très exportateurs, et deuxièmement, la part relative de leurs achats d'énergie à l'extérieur, elle est beaucoup plus faible que la nôtre. C'est pas le cas de la France, voilà. Mais de toute façon, d'une façon générale, en France, depuis 30 ans, on ne veut plus de mines, de quelque nature que ce soit. C'est-à-dire, l'opinion publique, les pouvoirs publics et tout, le BRGM est dans le fond de la mine, je vais dire ça comme ça, on l'a complètement démantelé, et donc il fait des études au Rwanda et au Saskatchewan, mais il ne fait pas d'études en France, il n'en fait plus, voilà. Parce qu'on ne veut plus percer de trous, parce que dès que vous dites dans votre jardin, on va faire une mine, évidemment, tout le monde hurle en disant pas chez moi.
Mais par rapport à ça, on est tous très contents d'utiliser des produits miniers, on a tous des smartphones avec des terres rares, avec des métaux, etc.
Mais ça, il y aura une conférence. Alors, sur les terres rares, il y a une conférence, c'est tout organisé. Hein. Donc au mois de décembre, monsieur Landry Léonard va nous faire le thème des terres rares et où ce terme, cette histoire de NIMBY, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dans nos poches et tout, les voitures électriques qui ont des aimants permanents, des choses extraordinaires, les batteries, le lithium et tout le bazar. Donc c'est génial, il faut faire de l'électrique partout. On fout une pollution absolument démentielle dans les pays qui sont à 10 000 km de chez nous. Voilà. Mais on s'en fiche. Et donc tous nos politiciens unanimes disent il faut faire de l'électrique, ce qui est un scandale pur et total. C'est-à-dire la pollution diesel qu'on enlève de chez nous, on la reporte chez les Chinois. Voilà. Pour faire court.
De la même manière, quand on nous présente comme une mesure écologique de remplacer sa vieille voiture.
Voilà.
Parce qu'on oublie le prix, le prix environnemental de fabriquer
une
voiture.
Déjà, en une heure et demie, je vous félicite d'avoir réussi à faire cette synthèse. Donc, le problème est tellement multiforme. Donc, il y aura d'autres conférences sur ce thème-là, comme toujours, et pour éclairer vos lanternes. Mais pas au gage de schiste. Voilà. Donc, d'autres questions ? On en a assez eu. Donc, merci encore parce que vraiment, c'était très, très réussi. Voilà.
Merci.